le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Mais que fait donc la censure ? Cette interpellation caractéristique d'une époque réputée pudibonde et hypocrite a disparu. En tous les cas de mon environnement, même si l'hypocrisie, elle, est loin d'avoir disparu dans cette époque dite émancipée dans laquelle nous vivons actuellement. En des temps précédents, mai 68, et où, effectivement, la bigoterie religieuse servait souvent à masquer une absence de morale, on avait donc recours à la censure. Et même si celle-ci pouvait relever de la plus parfaite hypocrisie, elle y remplissait cependant certaines fonctions régulatrices. Dans le cinéma grand public et à la télévision, elle limitait l'utilisation de la violence. On n'y voyait donc pas de scènes explicites de torture et d'autres montrant des cadavres atrocement mutilés, et copulait dans des films ou des séries grand public où brandir son sexe en érection que des pourvoyeuses de fonds de commerce pornographique sucent avec délectation n'était pas encore devenue monnaie courante. Une façade de vertu permettait encore de considérer tout cela comme étant obscène et, partant, comme relevant d'une atteinte à la dignité humaine. Depuis, si les critères d'obscénité ont été requalifiés par un commerce culturel qui fait feu de tout bois et enjoint, par souci d'émancipation, de s'affranchir de toute tendance de morale ou de décence, la liberté émancipatrice semble devoir s'inverser et de plus en plus souvent, pour exercer des contraintes de plus en plus avilissantes sur une proportion grandissante de la population. Ainsi, l'obscénité s'est déplacée et se retrouve actuellement au cœur de pratiques commerciales qu'aucune censure, évidemment, ne peut empêcher. Dans le cas qui nous occupe, en toile de fond, la crise sanitaire du coronavirus, évidemment. Sur cette toile, et suivant l'attention qu'on y accorde, peuvent se révéler certains faits. Et qu'une société encore un tant soit peu digne considérerait sans doute comme inadmissible, voire justement obscène, le propos concerne ici le commerce en ligne et qui nous est déjà présenté par nos autorités tout autant que par les médias. Sous la forme d'un incontestable progrès permettant à nos sociétés de traverser cette pire des crises que le monde vit actuellement dans la relative sérénité qu'offre ce prolongement de la consommation sans contact humain, la propagande, donc, déjà à l'œuvre pour promouvoir ces imbécilités, notre fêtière politico-commerciale ne recule donc devant aucune occasion, dût-elle amener à un comportement d'une arrogance abjecte pour préparer l'arrivée de ces futures injonctions aux nouveaux bons usages de citoyens responsables que nous prépare l'arrivée presque certaine de nouvelles obligations de soumission à des pratiques de commerce en ligne bien testées en la circonstance. Et pour ce faire, la grande distribution par le tout numérique, ignorant délibérément une présence humaine indispensable, n'hésite pas à se présenter sous un patronyme fleurant pour la grande liberté sauvage, pour pratiquer effectivement avec la plus grande sauvagerie, pour la liberté du consommateur, mais sans aucune pour ses employés, et en prenant grand soin d'empêcher que celle-ci ne soit révélée. Mais c'est raté. Jugeons-en plutôt à la lecture de l'article « Derrière les murs de l'usine à colis », écrit par Jean-Baptiste Mallet et publié dans Le Monde diplomatique d'avril 2020. Il y est justement question d'une obscénité pourtant socialement correcte puisque, semble-t-il, pratiquée par le plus grand nombre, parmi ceux qui en ont les moyens, ceux-ci maintenus ou non dans l'ignorance de ce à quoi ils contribuent. Cet article est lu par Fabio Cattaneo.
Partout dans le monde, les travailleurs des entrepôts logistiques Amazon font face à un afflux inédit de commandes. Que se passe-t-il dans les gigantesques plateformes de la multinationale américaine? À l'heure du confinement, comment se procurer un tapis de gymnastique, des haltères, une tondeuse à gazon, des chaises longues, un barbecue ou de la pâte à modeler afin d'occuper les enfants? Pour des millions de personnes assignées à résidence, La réponse tient en 6 lettres. Amazon. Au cœur de la pandémie, tel un génie sorti de sa lampe magique, malgré les consignes des autorités, le numéro 1 mondial de la vente en ligne exauce les vœux les plus variés. La situation est paradoxale. Partout dans le monde, des usines ferment. Librairies, magasins de sport et autres boutiques spécialisées ont baissé le rideau. Et certains contrevenants ont écopé de lourdes amendes. Mais en périphérie des grandes villes, il existe des lieux où l'on se confine à plus de 1000, les entrepôts logistiques. Fin mars 2020, plateforme de la grande distribution, centre de tri postal, hangar de vente en ligne, tourne à plein régime. C'est simple, je n'ai jamais vu autant d'activités dans mon entrepôt Amazon, résume M. Giampaolo Meloni, syndicaliste de la Confédération Générale Italienne du Travail, la CGIL, sur le site de Castel San Giovanni, en Émilie-Romagne. En France, durant la semaine du 2 au 8 mars, la croissance des ventes en ligne a été 4 fois supérieure à celle des commerces physiques, pourtant pris d'assaut. Depuis, la tendance s'accentue et Amazon, qui capte habituellement 20% des achats en ligne des Français, se taille la part du lion. Depuis le début de la crise, ce que j'observe dans mon entrepôt milanais est obscène, confie M. Antonio Bandini, représentant syndical CGIL en Lombardie. Contrairement à ce que dit la propagande d'Amazon, nous ne livrons que peu de choses vraiment essentielles aux Italiens. Ce que je vois dans les chariots, du vernis à ongles, des balles en mousse, des jouets sexuels. Mon entrepôt n'est pas un site alimentaire, nous en faisons moins de 5%, abonde Madame Fouzia Benmalek, déléguée syndicale de la Confédération Générale du Travail, la CGT, de l'entrepôt Amazon de Montélimar dans la Drôme. Jantes de voitures, jeux vidéo, disques. Sur une dizaine de chariots que j'ai inspectés au hasard hier, il n'y avait aucun produit de première nécessité. Sur le site de Sevré, en Saône-et-Loire, on est spécialisé dans les chaussures et les vêtements, indique M. Antoine Delorme, délégué CGT. C'est pareil chez moi en Allemagne, observe M. Christian Kelling, salarié d'un entrepôt de Baldersfeld, en Landes-Hesse. Mon entrepôt expédie essentiellement des vêtements, des chaussures et des bouteilles de spiritueux. Amazon ne prend aucune précaution sur le site. Pour répondre à ce pic d'activité inédit, il faut des bras. Le 16 mars, Amazon a annoncé le recrutement de 100 000 travailleurs temporaires rien qu'aux États-Unis. Avec les 800 000 salariés habituels ainsi que le recours massif à la main-d'œuvre intérimaire sur les autres continents, l'entreprise dirige une armée industrielle de près de millions de travailleurs à travers le monde. Au Royaume-Uni, constate M. Mike Ricks, le coordinateur national chargé d'Amazon au sein du syndicat G1B, la plupart des salariés travaillent maintenant 50 heures par semaine et il n'est pas rare que certains fassent des journées de 13 heures. Le recours aux heures supplémentaires est massif. Pendant ce temps, au siège de la multinationale à Seattle, État de Washington, les dirigeants empilent les notes confidentielles les informant de cas d'employés testés positifs au Covid-19. Le 1er mars, Amazon a reconnu officiellement 2 premiers cas italiens. Le 3 mars, le 1er malade américain. Tout au long du mois, les cas se multiplient dans les entrepôts italiens, espagnols, français, allemands, polonais, ainsi qu'aux États-Unis, sans que le vendeur en ligne en déclare officiellement la plupart, selon les syndicats. Un manager nous a dit que si nous tombions malades, ce serait de notre faute. À San Fernando de Henares, en banlieue de Madrid, M. Douglas Harper, secrétaire général de la Confédération syndicale des commissions ouvrières, la CCOO, fulmine. Au 19 mars, nous recensons officiellement 4 cas positifs sur le site. Mais en réalité, ce sont plus d'une centaine de travailleurs qui présentent les symptômes des personnes contaminées au coronavirus. Tous ont été en contact sur leur lieu de travail avec ces 4 cas positifs. Du fait de l'urgence de la situation, la CCOO a demandé la fermeture immédiate de l'entrepôt madrilène ainsi que sa désinfection complète. Amazon a refusé. Plutôt que de mener une enquête dans l'entrepôt, poursuit M. Harper, l'entreprise a recruté d'autres intérimaires pour remplacer les malades. Certains n'ont pu travailler que quelques jours car, sitôt entrés, ils ont à leur tour développé les symptômes. C'est le cas d'une intérimaire française ayant travaillé en équipe de nuit sur le site de Lewin-Plank, au nord. « Je suis entrée chez Amazon le 7 mars », nous confie-t-elle par téléphone, alors qu'elle est fiévreuse. « 10 jours plus tard, j'étais arrêtée car mon médecin me diagnostiquait le coronavirus. J'ai alors contacté les ressources humaines d'Amazon pour les prévenir afin qu'ils protègent les autres salariés. La seule chose qu'ils m'ont répondu, c'était que j'avais été embauché par ADECO, une agence de recrutement par intérim, et qu'ils n'allaient donc pas s'occuper de moi. Amazon ne prend aucune précaution sur le site. Du vestiaire à la pointeuse, en passant par les postes de travail, tout le monde y est agglutiné. Un même scénario se déroule à Barcelone et dans les entrepôts italiens d'Émilie-Romagne, du Piémont et de Lombardie. Tout au long du mois de mars, les syndicalistes ont réclamé avec insistance la fourniture de masques, gants, lunettes de protection et de gel désinfectant. En vain. Un employé de l'entrepôt d'Odawara, au Japon, préfecture de Kanagawa, nous a affirmé le 20 mars qu'à l'exception de l'installation d'un distributeur de solutions hydroalcooliques à l'entrée de la cantine, aucune mesure de protection contre le coronavirus n'avait été prise. Un manager nous a dit que si nous tombions malades, ce serait de notre faute et que c'était à nous de respecter les distances de sécurité. Il nous a prévenu qu'en cas d'absence, nous ne serions pas payés. Il nous a incité à venir travailler avec de la fièvre. Le 19 mars, lors d'une réunion de crise avec les délégués syndicaux centraux, le président directeur général d'Amazon France Logistique, M. Ronan Bollet, a reconnu 3 cas positifs au Covid-19 dans l'entreprise, chiffre sous-estimé selon les syndicalistes, et des manquements en matière de sécurité dans les entrepôts. Pour Mme Muriel Leblanc, médecin du travail chargée du suivi de l'entrepôt de Montélimar, il serait plus prudent sur le plan sanitaire d'arrêter l'activité de l'entreprise. Inspecteur du travail chargé du suivi de l'entrepôt de Sévry, M. Sébastien Deplanche, quant à lui, a recommandé le confinement des salariés, même sans cas avérés de Covid-19. Il est sur ce point à l'unisson de syndicalistes polonais, espagnols, italiens et français favorables à la fermeture des sites. En attendant, plus d'une centaine d'employés français ont exercé leur droit de retrait, suscitant cette réplique d'Amazon expédiée par courriel. Les conditions d'hygiène de votre site sont conformes au règlement par rapport au Covid-19, confirmé par les ressources humaines. La situation de travail ne présente aucun danger grave et imminent et, conformément à la position du gouvernement, un droit de retrait n'est donc pas justifié et toute absence du poste ne serait pas rémunérée. En Italie, des délégués ont appelé à la grève afin que le géant de Seattle respecte le protocole réglementaire de protection des travailleurs signé mi-mars par les organisations patronales, le gouvernement et les syndicats. Mais malheureusement, à l'heure où l'attention médiatique se focalise sur la situation dramatique des hôpitaux italiens submergés et où les rassemblements de protestation sont strictement interdits, il est très difficile d'alerter la population sur les périls sanitaires que font peser les entrepôts d'Amazon sur l'ensemble de la population, déplore M. Massimo Menzi, coordinateur national de la CGIL. « Les jeux vidéo sont des produits essentiels car il faut occuper les enfants. Pour inciter la main-d'œuvre à s'entasser dans des sites potentiellement contaminés, l'entreprise a pris une mesure inouïe : augmenter les salaires. À titre temporaire, les travailleurs de la logistique gagneront 2 dollars supplémentaires par heure aux États-Unis et 2 euros dans certains pays d'Europe. Les Polonais qui produisent des colis majoritairement expédiés en Allemagne se contenteront de 60 centimes, pour un montant total de 350 millions de dollars. Vous vous en doutez, je n'ai rien contre les augmentations de salaire, explique M. Rix, outre-Manche. Mais cela va multiplier le nombre de travailleurs malades dans les entrepôts, lesquels vont contaminer d'autres salariés, ce qui entraînera davantage de recrutement. Cette stratégie d'Amazon est non seulement dangereuse, mais totalement irresponsable. Sous la pression, le vendeur en ligne se résout à fermer et désinfecter certains sites, comme le 19 mars, la plateforme de correspondance aéroportuaire de New York, voisine de LaGuardia, dans l'arrondissement du Queens. Monsieur Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, veut désormais prioriser le stockage et la livraison d'articles essentiels. Les jeux vidéo sont des produits essentiels car il faut occuper les enfants confinés, a expliqué M. Bollet aux représentants syndicaux français. Depuis le 21 mars, Amazon répète aux médias qu'elle ne livre plus que les produits essentiels sans définir cette catégorie. Mais 5 jours après ces annonces, il était toujours possible de se faire livrer un collier GPS pour chien. L'épisode invite à prendre conscience du lien de cause à effet entre le service individuel consommateur rendu par les géants du numérique et la nuisance collective souvent cachée sur laquelle repose leur modèle économique. Depuis des années, Amazon s'ingénie à échapper à l'impôt en optimisant fiscalement ses sociétés partout où elles s'installent, rappelle Madame Christy Hoffman, la secrétaire générale d'Uni Global Union, la confédération internationale qui rassemble les principaux syndicats implantés chez Amazon. Et aujourd'hui, c'est cette même entreprise qui tire le plus grand profit de cette crise historique. De quoi, pense-t-elle, changer la donne ?
Pour suivre cet article, et dans une démarche similaire à celle du monde diplomatique, nous vous donnons lecture d'un autre article qui est adossé. Ce texte permet de comprendre que la propagande du gentil commerce œuvrant pour le bien de tous n'est pas nouvelle et que, de plus, elle a toujours occulté sa part de responsabilité dans des catastrophes où elle a joué un rôle en orientant le débat public sur des questions moins susceptibles de mettre en cause la probité de ses arguments. Intitulé « Quand le doux commerce propageait la peste à Marseille » et écrit par Alain Garrigou, voici ce texte qui est lu par Jean-Luc Rochat.
Quand le doux commerce propageait la peste à Marseille. Les pères de l'Union européenne ont prêché que le commerce adoucirait les mœurs. Une foi moins partagée par tant d'épidémies, même au siècle de Montesquieu, même dans le port de Marseille. Nul plus que Montesquieu ne contribuera à accréditer la doctrine du doux commerce. Dans la partie de l'esprit des lois qu'il consacre aux questions économiques, on relève dès le premier chapitre l'observation suivante. C'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Dans son essai sur la façon dont les penseurs modernes tentèrent de trouver une solution aux guerres, Albert O. Hirschman en ignore une curieuse cécité. Il ne semble pas apercevoir que le commerce n'est pas forcément aussi doux qu'ils le disent. Leur optimisme aurait dû être modéré par les dégâts manifestes causés par le commerce, tels la colonisation et les crises économiques. Encore plus, il aurait dû l'être par les épidémies. Alors que Charles de Secondat, baron de Montesquieu, avait 31 ans, la peste de Marseille tuait entre juin et octobre 1720 un tiers de la population de la ville, la moitié de celle de Toulon et entre 90 000 et 120 000 personnes sur 400 000 en Provence. Comment Montesquieu a-t-il pu, avec d'autres, ignorer que le commerce amenait ses propres catastrophes? Pas tout à fait, cependant. Dans les lettres persanes, rédigées pendant la peste et parues l'année d'après, il revenait sur une épidémie dont on peut supposer, malgré l'approximation chronologique, qu'il s'agit de la peste noire de 1347-1349 qui anéantit un tiers de la population européenne. Il n'y a pas deux siècles que la plus honteuse de toutes les maladies se fit sentir en Europe, en Asie et en Afrique. Elle fit en très peu de temps des effets prodigieux. Cet effet des hommes si elle avait continué ses progrès avec la même furie. Au moins concevait-il le pire d'une extinction de l'espèce humaine. La peste de 1720 à Marseille fut bien moins vaste, mais tout aussi importante dans l'histoire des épidémies. Elle commence avec un navire de commerce, le Grand Saint-Antoine, en provenance du Levant, Syrie, Liban et Palestine. Au cours du voyage, 9 personnes meurent à bord. Après un premier refus de débarquer à Marseille le 25 mai 1720 et une tentative avortée à Livourne, le bateau est accueilli en quarantaine au large de Marseille sur l'île Jarre, qui est affecté aux navires touchés par la peste. Un bureau de santé a été aménagé sur le vieux port, où les capitaines des bateaux venant du Levant doivent se rendre en barque pour obtenir le droit d'entrée dans le port. Au Liban, à Sidon, le consul français a délivré une patente nette au bateau, qui attestait qu'il avait quitté le port, exempt de maladies contagieuses. Puis le consul de Tyr, où une autre cargaison a été embarquée, et celui de Tripoli, où le navire a réparé une avarie. Le capitaine avise le bureau des décès de la traversée. Alors qu'un marin est mort à bord du Grand Saint-Antoine au bout de 2 jours à Marseille, le corps est débarqué, mais le médecin ne voit aucun signe de peste. Après avoir envoyé le bateau sur l'île Jarre, le bureau de santé se ravise. Alors que les ballots de coton sont envoyés à un autre lieu de l'isolement, il autorise le déchargement des produits précieux, c'est-à-dire de la soie. Quelques jours plus tard, il décide le débarquement de toutes les marchandises, dans des conditions obscures. Les ballots sont donc successivement distribués, avec les puces transportant le bacille de la peste. Les portefaix furent les premiers contaminés. À partir de fin juin, l'épidémie flamba en quelques jours, touchant les vieux quartiers puis les nouveaux, avant de s'étendre en Provence. Cruelle ironie, destinée à la foire de Beaucaire du 22 juillet, la marchandise n'y fit pas de victime, car la ville annula sa foire. La peste laissa un traumatisme durable dans la population locale. Plutôt que les scènes tragiques des cadavres jetés à la rue, les fosses communes et toutes les horreurs qui culminent dans ces drames épidémiques, la mémoire préfère retenir les images positives des héros se dévouant aux victimes. L'archevêque, Monseigneur de Belzunce, et le chevalier Rose, honoré aujourd'hui par des statues et des noms de rues de la cité méridionale. Toute la région fut confinée, un mur de la peste édifié et des troupes militaires établirent un barrage au nord. La volonté divine fut évidemment invoquée, comme en toutes circonstances. Mais au XVIIIe siècle, les pouvoirs politiques ne pouvaient plus laisser la Providence clore les affaires publiques. La justice s'empara de l'affaire en accusant le capitaine du navire Jean-Baptiste Château et le premier échevin Jean-Baptiste Estelle, négociant et destinataire d'une partie des étoffes. Le premier se dédouana en faisant valoir qu'il avait obtenu les patentes obligatoires en Syrie et qu'il avait bien informé le bureau de santé. Le second mourut sans qu'on puisse démontrer une pression de sa part pour décharger les ballots contaminés, sans qu'on puisse aussi le prouver par des documents écrits. Les négociants avaient bien exercé des pressions pour récupérer leurs marchandises. Le gardien de santé du vaisseau étant mort un jour avant la levée de la quarantaine imposée à l'équipage, le chirurgien du port diagnostiqua un décès de vieillesse. Et le carnet de bord du capitaine Château fut falsifié pour indiquer que les décès de la traversée étaient dus à des empoisonnements alimentaires. En pleine polémique entre contagionnistes et anticontagionnistes. L'existence même d'un système de patentes au Levant était assez explicite du souci d'organisation de la lutte sanitaire depuis que la peste noire avait désigné la région comme la source des grandes épidémies. L'organisation d'une administration de quarantaine dans le port de Marseille en était une autre pièce. Certes, l'étiologie des maladies transmissibles était alors en pleine polémique entre contagionnistes et anticontagionnistes. Les médecins François Chicoineau et Jean Verny de l'Université de Montpellier furent envoyés à Marseille à l'initiative du régent et de son médecin Pierre Chirac qui suspectait la peste. L'épidémie de Marseille amorça les premiers pas d'une compréhension scientifique de la maladie en l'attribuant à des insectes ou à des vers et donc à des agents infiniment petits. Conjecture lancée par des médecins placés près de la maladie comme les deux médecins Jean-Baptiste Bertrand et Goisson. Hypothèse prolongée par des médecins d'autres pays comme le Hollandais Nicolas Archducker qui supputait les insectes invisibles. Il faudra attendre le pastorien franco-suisse Alexandre Yersin pour que le bacille soit identifié et le vaccin inventé en 1894 en Indochine. Malgré l'ignorance, les réponses politiques et médicales à la peste n'ignoraient donc pas son origine étrangère. Montesquieu non plus. Il était en effet demeuré sensible à la menace puisqu'il y revenait dans l'esprit des lois. S'il restait conscient du danger que faisaient peser les épidémies pour l'existence même de l'humanité, il ne faisait toujours pas de lien avec le commerce international. Dans un bref historique des épidémies, il évoquait des causes successives, les conquêtes byzantines et les croisades pour la peste noire, la conquête du Nouveau Monde et la fin de l'or pour syphilis. Dans ce chapitre sur les lois qui ont un rapport aux maladies du climat, Montesquieu évoque donc les lois et approche la question des remèdes. Pour la syphilis au XVIe siècle, il regrette de ne pas avoir eu recours à une ancienne législation. Comme il est de la sagesse des législateurs de veiller à la santé des citoyens, il eût été censé d'arrêter cette communication par des lois faites sur le plan des lois mosaïques. La loi mosaïque, heureusement oubliée au moins en la circonstance, interdit de toucher les lépreux. Mais il flotte une sorte d'optimisme en la matière qui s'était déjà manifesté 20 ans plus tôt dans les lettres persanes. Qu'aurait-ce été si le venin eût été un peu plus exalté? Et il le serait devenu sans doute si l'on avait été assez heureux pour trouver un remède aussi puissant que celui qu'on a découvert. Quel remède? Cela n'est pas dit. L'esprit des lois sera-t-il plus précis? La peste est un mal dont les ravages sont encore plus prompts et plus rapides. Son siège principal est en Égypte, d'où elle se répand dans tout l'univers. On a fait dans tous les États de l'Europe de très bons règlements pour l'empêcher d'y pénétrer. Et on a imaginé de nos jours un moyen admirable de l'arrêter. On forme une ligne de troupes autour du pays infecté qui empêche donc toute communication. La quarantaine, le confinement et, in fine, la force des armes. Cela ne nourrit guère l'optimisme. Et si cela ne suffisait pas, on peut encore en appeler à la religion. Les Turcs, qui n'ont à cet égard aucune police, voient les chrétiens dans la même ville échapper au danger et eux seuls périr. Au moins le doux commerce n'est-il pas atteint. Dans les épidémies du XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, il est une maladie à laquelle il ne semble y avoir aucun remède. Même chez les meilleurs esprits, toujours aussi vifs, bien qu'on en sache les causes, le déni.
Au terme de ce billet,
nous remercions Tania Rocha
pour avoir prêté sa voix. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion.
Thank you.